Seigneur, nous voulons te remercier à nouveau de pouvoir nous réunir ici librement ce matin. Seigneur, nous voulons nous décharger de tout fardeau qui pourrait peser sur nous. Et nous voulons ouvrir nos cœurs à la parole que tu vas nous enseigner ce matin. Nous voulons te remercier dans le nom du Seigneur Jésus. Amen.
Il y a des textes bibliques que l'on a lus, relus et relus encore, qui peuvent toujours nous étonner. Ce matin, je n'ai que quelques mots à vous dire, mais ils m'ont marqué. Ils sont dans les quatre récits que nous avons de la scène, et un détail m'a frappé. Mais en fait, ce n'est pas un détail. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 26. Matthieu 26, et nous lirons seulement les versets 26 à 30. Matthieu 26, 26 à 30. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance, qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. » Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Après avoir chanté des cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Ce qui n'est pas un détail dans ce texte, c'est que Jésus a rendu grâce. Cette action de rendre grâce est présente dans les quatre textes qui nous parlent de la scène. D'autres traductions nous disent que Jésus a remercié Dieu. Mais la question, c'est pourquoi est-ce que Jésus a remercié le Père? De quoi est-ce qu'il l'a remercié? Alors, on connaît la prière « Donne-nous notre pain quotidien ». Est-ce que c'est parce qu'il y avait du pain et du vin sur la table que Jésus a remercié le Père? Non. On n'est pas dans ce cadre-là. La scène, ce n'est pas pour se nourrir. D'ailleurs, Paul nous dit, n'avez-vous pas des maisons pour manger et pour boire? Donc, ce n'est pas ça. Jésus, il n'a pas remercié parce qu'il y avait à manger et à boire sur la table. Pourquoi est-ce que Jésus a remercié? Il y a la réponse au verset 28, pour la rémission des péchés. C'est bien. Voilà, la scène, c'est une commémoration de la rémission des péchés. Et Jésus remercie pour la rémission des péchés. Mais il n'est pas au bénéfice de la rémission des péchés parce que des péchés, lui, il n'en a pas. Ah ! Jésus à remercier le Père pour le plan de salut qui nous sauve de nos péchés. Jésus n'est pas au bénéfice de ce salut. C'est nous qui le sommes. Et le plan de salut, celui qui en paye le prix, eh bien c'est lui. C'est par son corps et par son sang, c'est bien ce qu'il dit, c'est par son corps et par son sang, par son sacrifice, qu'il y a la rémission des péchés. Donc il est reconnaissant de notre salut et il agit comme s'il n'avait pas compris, oublié que ce salut, c'est lui qui en paie le prix. Jésus ne traite pas son sacrifice comme un mal nécessaire auquel il se serait résigné. Il est reconnaissant de pouvoir nous sauver. Et son amour envers nous, il est si grand que son amour fait passer le salut, notre salut, au premier plan. Et son sacrifice, il ne passe pas au second plan. Son sacrifice, il disparaît. Remercions-le pour ça. Seigneur, c'est toi qui as payé le prix de notre salut, c'est toi qui es mort sur la croix pour nous, pour que nous puissions avoir la rémission de nos péchés. Seigneur, merci parce que Ce n'est pas avec résignation que tu l'as fait, mais bien avec l'amour, avec la fidélité que tu as mise dans cet acte qui n'avait pour seul but de nous sauver. Amen.
Alors, plus vite, plus haut et plus fort, ça y est, depuis vendredi, c'est avec le monde à les yeux tournés vers l'Italie, c'est les Jeux Olympiques d'hiver, un rendez-vous incontournable pour des centaines d'athlètes qui ont souvent sacrifié des années de leur vie pour cette compétition, privation tout genre, alimentation calibrée, des entraînements intensifs, mais dans quel but ? Dans celui de progresser jour après jour pour être prêt le jour J. Alors, je ne sais pas si vous avez une âme d'athlète, mais en tout cas, la parole nous donne un objectif qui est assez semblable. On trouve ça dans 1 Thessaloniciens 4, verset 1. Je vous lis le verset. « Au reste, mes frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus à marcher vers cet égard de progrès en progrès. » Alors ce matin, je vous propose qu'on aille à la rencontre de frères et sœurs qui ont montré rapidement des progrès dans leur vie chrétienne. On va lire le premier chapitre de la première lettre aux Thessaloniciens. C'est un chapitre qui est court, il y a 10 versets. On va le lire. Paul, donc 1 Thessaloniciens 1. Paul et Sylvain et Timothée à l'église des Thessaloniciens, qui est en Dieu le Père et en Jésus-Christ le Seigneur. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous, en faisant mention de vous dans nos prières. Nous rappelons sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre charité, la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ, devant Dieu, notre Père. Nous savons, frères bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus. Notre évangile ne vous ayant pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine persuasion. Car vous n'ignorez pas que nous nous sommes montrés ainsi parmi vous à cause de vous. Et vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations et avec la joie du Saint-Esprit. En sorte que vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe. Non seulement, en effet, la parole du Seigneur a retenti chez vous, dans la Macédoine et dans l'Achaïe, mais votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu de telle manière que nous n'avons pas besoin d'en parler. Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. » Alors, pour resituer un petit peu le contexte, Paul a écrit cette lettre depuis Corinthe, peu de temps après que Timothée soit revenu de Thessalonique pour le rejoindre, apparemment au début des années 50, années 50 ou 51. Alors, Paul avait annoncé l'évangile à Thessalonique très peu de temps, puisqu'il est resté seulement 3 semaines. Et ensuite, à cause des persécutions, bien, il a dû fuir. On trouve ça dans Actes 17, vous pouvez relire versets 1 à 9. Et malgré ce très court séjour de 3 semaines, une assemblée composée de juifs, de grecs, avait vu le jour. Alors ça, c'est pendant son deuxième voyage missionnaire que la lumière de l'évangile est venue dans cette cité, après qu'il ait prêché selon son habitude dans les synagogues. Or, il est intéressant de nous arrêter un tout petit instant sur l'auteur de l'épître, on connaît, Paul, qui a été un instrument de Dieu pour amener un peuple idolâtre et ses juifs religieux à la connaissance de l'Évangile. Dès le premier verset, on entrevoit les sentiments de Paul pour les frères et sœurs qu'il a laissés à Thessalonique. Aux Philippiens, il avait donné cette exhortation. « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. » Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Et quels sont les sentiments qui étaient en Jésus-Christ? On les connaît, il a démontré par sa vie ici-bas, son obéissance, son humilité, il s'est fait serviteur de tous. Et Paul, à la suite, a pu dire pour devenir justement conforme au Seigneur, ces choses qui étaient pour moi des gains, ses titres, sa position sociale, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, dit-il, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Et c'est dans cette position, on pourrait dire, de dépendance, de conformité au Seigneur, que Paul a pu être un instrument puissant de bénédiction pour cette ville et pour d'autres, et pour toute la région. Et il a expérimenté la promesse de Jean 7, 38, « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein », comme le dit l'Écriture. Et en lisant ce texte, je me suis posé la question, quels sont mes sentiments vis-à-vis du Seigneur? Est-ce qu'ils sont toujours conformes à ceux du Seigneur? Est-ce qu'il y a des fleuves d'eau vive qui coulent? Au moins des petits ruisseaux? Quelques gouttes, peut-être? Il y a des choses à ajuster, sans doute. Et cette lettre qu'il écrit aux Thessaloniciens, il l'adresse à tous. Paul, à l'exemple du Seigneur qu'il suit, ne fait pas exception de personne. Il ne s'adresse pas à ceux qui sont les plus en vue, à ceux qui ont une position sociale élevée ou qui sont des personnages importants de l'Église. Tous sont sur son cœur et on part à cette belle salutation que nous avons dans le premier verset. « Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus. » Je crois que ces paroles sont aussi pour nous ce matin. Le Seigneur offre la grâce à chacun. C'est rappelé dans Tite, chapitre 2, verset 11. « La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. » Et cette grâce est assurée pour le croyant sur tout son chemin. Elle sera pleinement manifestée lorsque nous le rencontrerons. C'est Pierre qui dit cela. Il nous exhorte en disant « Saignez les reins de votre entendement, soyez sobres, ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus apparaîtra. » Donc la grâce d'à côté est la paix. Et j'ai lu cette définition de la paix. « Ce calme imperturbable qui défie les circonstances inattendues et écrasantes de la vie. » La grâce en est la cause et puis la paix en est l'effet. Et l'ensemble, il représente, on pourrait dire, la source des bénédictions de Dieu. Le verset 2 que l'on a lu, il dévoile en quelque sorte un petit peu le secret de la vie de Paul avec Dieu. Il nous éclaire sur les raisons des fruits de son ministère. Il dit « Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous, faisons mention de vous dans nos prières, nous rappelant sans cesse l'œuvre de votre foi. » On voit là que la vie de prière de Paul jointe au fardeau qu'il avait sur le cœur pour cette église qui lui était si chère, l'ont conduit à une intercession incessante. Pas une prière vite faite le matin ou le soir en se couchant, après une journée qui a laissé peu de temps pour prendre à cœur les affaires du Seigneur, mais une action de grâce continuelle, et il dit des prières incessantes. Et voilà un aspect de sa vie chrétienne, je parle pour moi, où les progrès sont nécessaires. Il avait une communion constante avec le Seigneur et un esprit de prière qui l'ont conduit à avoir du fruit dans sa vie. Et quels sont les motifs de sa reconnaissance? On peut relire le verset 3. « Nous rappelons sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre charité, la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ devant Dieu notre Père. » Durant la très courte période, donc 3 semaines, où il a été parmi les Thessaloniciens, il a pu constater la réalité et la fermeté de leur foi. Ses frères, ses sœurs n'avaient pas seulement cru à l'Évangile, mais ils portaient maintenant du fruit, un fruit précieux pour Dieu. Ainsi, ils manifestaient simultanément la foi, la charité, ou l'amour dans certaines traductions, et l'espérance. Évoquant l'œuvre de la foi, peut-être Paul fait allusion déjà à leur conversion. Parce que là, il y a dans la parole la question de ces hommes au Seigneur, « Que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu ?» Et le Seigneur répond dans Jean 6, « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. » Donc il y a peut-être dans cette œuvre de la foi, il y a cet aspect, la conversion des Thessaloniciens. Mais la foi, ce n'est pas seulement un acquiescement passif, on le sait, à une nouvelle doctrine ou à l'acceptation d'une croyance. La vraie foi, nous dit la parole, elle est active, elle produit du fruit. Et Jacques nous rappelle que, comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres aussi est morte. Et ce que le croyant, on pourrait dire, accompli pour le Seigneur, ben, montre la réalité concrète de sa foi, puisque nous avons été rachetés pour accomplir les bonnes œuvres préparées d'avance. Ça, c'est Éphésiens 2.10. Nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Paul évoque ensuite le travail de l'amour ou de la charité. Alors ça, ce n'est pas naturel. Je ne sais pas chez vous. Je ne sais pas si votre cœur est toujours débordant d'amour. Le mien, pas toujours. Et on a peut-être là une des caractéristiques les plus marquantes d'une vie qui a été transformée par le Seigneur. Un amour réel pour Dieu d'abord, et puis pour son prochain. Alors pour Dieu d'abord, évidemment, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier, c'est ce que nous dit 1 Jean 4. Le frère MacDonald, dans son commentaire, il développe ce point comme ça. La vie chrétienne ne doit pas être subie par devoir. Elle sert la personne de Christ par amour. Être son esclave signifie la liberté parfaite, et l'amour de Christ rend les labeurs divins. Comparé à l'amour, le mobile d'en tirer profit est une motivation indigne et sans valeur. L'amour pour Christ suscite un service tel que l'argent ne pourrait jamais l'inspirer. Les Thessaloniciens en étaient le témoignage vivant. Et le troisième point qui est mis en évidence dans ce verset 2, c'est l'espérance. Paul, finalement, rend grâce à Dieu pour leur ferme espérance. Et la situation était compliquée puisqu'il y avait de la persécution qui a suivi très rapidement leur conversion à Dieu. Et malgré leur foi, jeune foi, ces fidèles chrétiens sont restés fermes. Au milieu des découragements, des difficultés, des épreuves, ils avaient appris rapidement à fixer les regards sur le Seigneur vers un avenir meilleur et surtout sur la personne du Seigneur lui-même. Comme le dit Paul, il est notre espérance. C'est ce qu'il dit en introduction de sa première lettre à Timothée. Christ, notre espérance. Une foi vivante, on l'a vu, un amour sincère, une espérance fondée sur Christ qui caractérisait cette église de Thessalonique. Alors on se pose la question, je me suis posé, est-ce que c'est aussi le ressort de ma vie, de notre vie, de toute marche chrétienne? Si Paul venait passer quelques jours avec nous, à la maison ou au travail, est-ce qu'il rendrait témoignage des mêmes fruits? On va dire, Paul n'est pas là, on est tranquille. Mais le Seigneur sonde les cœurs et les reins. Il connaît nos motivations qui nous font agir. Et puis peut-être il montrera quelques ajustements nécessaires. Alors dans les versets suivants, Paul, on l'a vu, il rappelle l'origine de leur foi. Il oriente rapidement leur regard vers celui qui les a élus dès la fondation du monde. Et il est bon de repasser devant nos yeux la grâce dont nous avons été l'objet. Et c'est ce que nous faisons, bien sûr, chaque dimanche en partageant le repas du Seigneur. Nous savons, je relis le verset 4, « Frères bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus. Notre évangile ne vous ayant pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint, avec une pleine persuasion, et vous n'ignorez pas que nous nous sommes montrés parmi vous, ainsi à cause de vous. » Mes frères bien-aimés. Je vous l'ai peut-être déjà dit, mais quand je relis cette expression, mes frères bien-aimés, ça me fait penser à un frère âgé que j'avais rencontré dans une convention chrétienne. Et un jeune frère va le saluer, le prendre dans ses bras et dire « Ah, mon frère bien-aimé !» Le jeune frère s'en va, puis le vieux monsieur va vers sa femme, il dit « Tu te rends compte ?» Il m'a dit « Mon frère bien-aimé !» Et une simple salutation, si elle est sincère, elle peut toucher les cœurs. Une des raisons des bon état spirituel des Thessaloniciens provient du fait que l'Évangile avait pu être prêché avec puissance, par l'Esprit Saint, ça a été rappelé, et avec une pleine persuasion. Romains 1,16 confirme ce point. L'Évangile, nous dit la parole, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Si le serviteur qui annonce l'Évangile, évidemment, a sa part dans la responsabilité du travail qu'il accomplit, eh bien seul le Saint-Esprit peut convaincre les hommes de péché, de justice, de jugement, comme nous le rappelle l'évangile de Jean. Et Paul apporta ce message de l'évangile, il nous le dit avec une pleine assurance. Et les Thessaloniciens ont simplement accepté la parole telle qu'elle était. Le résultat fut qu'ils ont eu une pleine assurance, une pleine foi en Dieu, même au sein des épreuves de la persécution. Dieu ne laisse pas les siens dans l'incertitude. Et il est merveilleux de savoir que nous avons été acceptés par Dieu définitivement en recevant la bonne nouvelle. Enfin, on peut souligner que la parole a été annoncée aux Thessaloniciens par un homme dont la vie et le témoignage était conforme à ce qu'il prêchait. Verset 6, « Vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur. » Et 2 Corinthiens 3, 3 nous dit, ça s'adresse à nous, « Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. » Et c'est indiscutablement une grande responsabilité, puisqu'il est possible que des amis, des voisins, des connaissances ne croiront peut-être jamais un autre chrétien, et que nous avons cette responsabilité d'être ce témoin du Seigneur. Ça me rappelle un récit que j'ai lu il y a quelques années, je vous l'ai peut-être déjà dit, d'un couple chrétien qui essayait de convaincre leur voisine de l'importance de se convertir rapidement. Alors les arguments étaient choisis, les paroles convaincantes, mais un jour la voisine, qui a dû en avoir marre, est remontée avec son magnétophone. Aujourd'hui, ce serait son smartphone, mais à l'époque, c'était comme ça. Et elle a repassé ce qu'elle avait enregistré. On entendait la dispute du couple à l'étage au-dessus. Ça les a pas fait rire. Ils se sont sauvés. Et autant dire que la tentative d'évangélisation en est restée là. Donc, notre témoignage est important. Et on en vient maintenant au cœur de ce récit. La parole avait été semée dans la bonne terre. Elle va porter du fruit. On peut relire les versets 6, 7, 8. « Et vous-même, vous avez été mes imitateurs, et ceux du Seigneur, en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations, avec la joie du Saint-Esprit, en sorte que vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe. Non seulement, en effet, la parole du Seigneur a retenti de chez vous, dans la Macédoine et dans l'Achaïe, mais votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu, de telle manière que nous n'avons pas besoin même d'en parler. » Alors, vu de l'extérieur, un petit peu superficiellement, les conséquences immédiates de la conversion de ces chrétiens, c'était une catastrophe, c'était la persécution, c'était les difficultés. Et voilà, ça s'est poursuivi, cette persécution, même après le départ de Paul. Et pourtant, c'est conforme à ce que le Seigneur nous annonce. N'a pas promis un chemin qui soit forcément toujours facile. Dans Jean 15, 20, il est dit « Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. » Ainsi, si nous sommes ouvertement du côté du Seigneur, du côté de Christ, alors ne soyons pas surpris s'il y a de la compréhension, du rejet, et nous ne sommes pas à l'abri qu'une véritable persécution vienne un jour dans notre pays, c'est tout à fait possible. Mais dans ce chemin, nous pouvons goûter d'amant la paix, la proximité du Seigneur, le réconfort qu'il accorde à ses enfants fidèles. En imitant Paul dans sa marche, finalement, c'est le Seigneur qu'il voulait imiter. Ils avaient vu dans la vie de Paul un modèle qui faisait bon de suivre. Et une des conséquences de leur conversion à Christ, c'est justement qu'ils ont ce désir de lui ressembler et de lui plaire. Et si nous nous tenons dans la présence du Seigneur, si nous le recherchons dans sa parole, et que nous passons du temps dans la prière, nous allons aussi apprendre à lui ressembler, marchant ainsi de progrès en progrès. Notre manière de penser, de nous comporter, vont ressembler à celle du divin modèle. C'est ce que Pierre nous dit dans sa première épître au chapitre 2, verset 21. « Christ a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. » Et pour ces jeunes chrétiens thessaloniques, rapidement, une étape va être franchie dans leur vie, dans leur marche. Après avoir été les imitateurs, à leur tour, rapidement, ils vont devenir des modèles pour les autres. Et peut-être leur joie au milieu des épreuves, des persécutions, a été un puissant témoignage de fidélité, de confiance en Dieu. Et non seulement, ça nous est dit dans la Macédoine, qui est déjà une région importante, mais dans toute le reste de la Grèce, ces régions étaient au bénéfice du témoignage de cette assemblée de Thessalonique. Et là, on peut dire que les fleuves d'eau vive se sont répandus sur toute cette région. Ils avaient goûté la grâce, le salut de Dieu, rien ne pouvait atténuer leur joie de partager ce message, de faire connaître la bonne nouvelle de l'Évangile. Le mot que Paul utilise pour caractériser la façon dont ils ont prêché l'Évangile depuis Thessalonique, c'est « retentir ». J'ai cherché un petit peu des synonymes de retentir, j'ai trouvé dans le dictionnaire, retentir ça peut vouloir dire remplir de bruit, c'est-à-dire toute la région était remplie du témoignage, du puissant témoignage de ses frères et sœurs. Et à tel point que Paul dit, ben, nous n'avons même pas besoin, nous, d'en parler. Ces jeunes chrétiens avaient compris que Dieu n'attend pas seulement que nous soyons des simples bénéficiaires de ses bénédictions, de sa grâce, mais il voudrait que nous soyons des canaux pour que cette bénédiction puisse être transmise à d'autres. Et combien d'âmes ont dû être gagnées dans ces régions par le témoignage de ses frères et de ses sœurs. Et les deux derniers versets de ce chapitre lèvent le voile sur les changements qui ont été réalisés dans la vie de ces anciens païens lorsqu'ils sont passés de la mort à la vie. La parole nous dit des ténèbres à la lumière, de Satan à Christ. On raconte, on relit les versets 9 et 10, on raconte à votre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous. Comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. On raconte le fait tellement établi, tellement indiscutable que les païens eux-mêmes ont été les témoins, peut-être involontaires, de la puissance de Dieu et de l'Évangile. Les croyants thessaloniques ont abandonné leurs idoles, leurs coutumes passées, leurs croyances, leur mode de vie ancestral, non pour servir d'autres faux dieux, mais pour se tourner vers le Dieu vivant, vers leur Créateur. Et les conséquences de cette conversion radicale, elle a été double. Premièrement, ils sont rendus aptes au service de Dieu, autrefois au service des idoles, de leurs passions, vivant pour eux-mêmes. Ils servent maintenant le Dieu vivant. Et c'est la mission de tout chrétien, de se mettre au service du Maître, le talent, de mettre au service du Seigneur le talent que l'on a reçu ou les talents que l'on a reçus, pour que l'Évangile puisse ainsi être diffusé. Le seul obstacle, souvent, c'est moi-même. Et je me suis posé la question, est-ce que je suis, est-ce que nous sommes toujours, on peut se poser la question, disposé à être au service du Seigneur librement. La deuxième conséquence, c'est qu'ils attendent la venue du Seigneur, c'est ce qu'il nous est dit. Ils attendent le Seigneur qui nous délivre de la colère à venir. Cela impliquait dans leur pensée, et c'est toujours ce que l'on croit, que le Seigneur peut venir à tout moment, le retour imminent. Et c'est là l'espérance du chrétien. La parole, elle parle de la bienheureuse espérance. Et ça, on le lit dans 2 Tite 2, verset 11. Par la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, aux convoitises mondaines, à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. Alors, c'était un grand réconfort pour ces chrétiens qui étaient en butte à la persécution, aux difficultés diverses, de savoir que le Seigneur revient bientôt. Et ils ont pu faire versienne, cette parole d'Apocalypse 3:10, « Tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Tu as gardé la parole de la persévérance, je te garderai aussi. » Alors sommes-nous de ceux qui attendent le Seigneur? Les siècles ont passé, mais la promesse demeure. Encore un peu de temps, dit Hébreux 10, 37, encore un peu de temps, « Celui qui doit venir viendra, il ne tardera pas. » Et j'aimerais conclure ce court chapitre par les mots de Harding Wood qui dit « Le chrétien qui attend le retour du Seigneur n'a pas de place pour les idoles dans son cœur, pour la négligence dans son service, pour des divisions dans la communion, pour la dépression spirituelle, ni pour le péché dans sa vie. » Voilà, que le Seigneur nous conduise aussi, comme ses frères et sœurs, à aller de progrès en progrès.
Notre Dieu, notre Père, nous te remercions, nous te louons parce que en ce dimanche, tu nous as nourris, tu nous as nourri notre âme, tu nous as régénérés. Nous nous sommes prosternés devant toi afin que tu nous bénisses. Et fais-nous la grâce durant toute la semaine qui s'ouvre devant nous de garder ces paroles serrées au fond de nos cœurs afin que nous puissions, afin que ça rayonne autour de nous. Fais-nous cette grâce. Seigneur, viens bientôt. Amen.